Saint-Étienne, le roi fondateur de la Hongrie chrétienne. La garantie de la survie de l'alliance des tribus nomades hongroises qui ont occupé le bassin des Carpates ne pouvait être que la création d'un État organisé,
l'acceptation
du christianisme et l'inclusion parmi les peuples européens qui vivaient autour d'eux. Trois générations après la conquête de la patrie, Géza, le grand prince de l'alliance des tribus, fut reconnu et, selon toute vraisemblance, se baptisa lui-même et invita ensuite les missionnaires occidentaux au pays. Le travail qu'il a commencé a dû être
continué
par son fils, né autour de 975-980, peut-être à Esztergom, sous le nom de Voik. Selon la tradition, dès son enfance, il fut éduqué par Bruno, évêque de Saint-Gall, qui baptisa lui-même l'enfant, nommé désormais Étienne le protomartyr. Après la mort de son père
en 997, qui lui avait donné
une princesse bavaroise pour femme, il
hérita du titre
de grand prince. Il décida de faire de son pays chrétien un État bien organisé, un royaume liant le sort de son peuple à la communauté politique et religieuse de l'Universum Christianum. Même alors, il devait se battre avec ses armes contre des ennemis qui contestaient son pouvoir et ses intentions. Ils étaient les dirigeants hongrois qui préféraient leur ancienne forme de vie et le monde païen. Pendant ce temps, le pape Sylvestre II et l'empereur Othon III réalisèrent qu'un jeune souverain avait l'intention d'introduire son propre peuple à l'Église. À la demande de ces deux derniers, l'abbé Astrid rendit visite à Étienne. L'abbé revint à Rome, transmettant la demande du souverain qui souhaite que le pape, en lui envoyant une couronne royale, l'accepte dans la communauté des peuples chrétiens. L'abbé revint avec la couronne, envoyée et bénie par le pape Sylvestre II.
Étienne fut nommé roi
du nouveau pays chrétien, de la Hongrie, le 1er janvier 1001 à Esztergom, dans la chapelle du château construit par le nouveau roi. Plus tard, Étienne commença avec beaucoup d'enthousiasme l'organisation de l'État hongrois et la conversion de son peuple au christianisme. Au cours de plusieurs guerres internes, il réussit à vaincre la résistance des seigneurs opposés au pouvoir réel. Il invita les chevaliers à sa cour pour créer une armée occidentale moderne avec leur aide. Pour favoriser le développement économique, l'épanouissement de l'agriculture et de l'artisanat, il accueillit avec plaisir des étrangers venus de loin. Pour consolider la structure de l'État, il commence à organiser le système de comtés, dirigé par des agents de terrain nommés par le roi, et en créant également un système législatif écrit moderne de type chrétien occidental. Une avancée fondamentale dans cette direction lors des dernières années de son règne fut la promulgation du code qui rassemblait les dispositions concernant les tribunaux, le gouvernement du pays et les garanties des droits de l'Église. En ce qui concerne sa politique étrangère, il essayait de construire des relations pacifiques avec l'Empire voisin, avec le Royaume de Pologne et le Grand-Duché de Kiev. Il réussit aussi à améliorer ses relations avec l'Empire byzantin vers le sud de son royaume. Son attention ne se concentrait pas seulement sur l'organisation de l'État, mais aussi celle de l'Église. Il fonda deux archevêchés et huit évêchés, l'un après l'autre, en leur fournissant également de grandes propriétés et en établissant une dîme par la loi, qui garantissait aussi la sécurité du clergé. Il s'est arrangé pour que chacun des 10 villages construise une église et a obligé chaque habitant du royaume à être baptisé et à assister à la messe. À Esztergom et à Székesfehérvár, il érigea des cathédrales et fonda des monastères dans tout le pays. De son mariage avec la princesse bavaroise Gisèle, sont nés plusieurs enfants, mais un seul fils, Émeric, qui, arrivé à l'âge adulte, deviendra un saint, tout comme son père. Ils ont invité comme enseignant, pour le jeune héritier du trône, l'évêque de Tchonad nommé Gérard de Venise, qui est devenu plus tard un martyr saint. Le vieux roi écrivit probablement avec l'aide de Gérard l'ouvrage intitulé « Avertissement », qui fut un miroir au prince dans lequel il conseille à son fils de rester fidèle à la religion et de bien gouverner, offrant un regard sur la religiosité profonde du vieux souverain. Ce fut la plus grande tragédie de sa vie quand son fils bien-aimé Émeric, l'héritier du trône, qui
fit vœu de chasteté dans son mariage,
mourra dans un accident de chasse en 1031.
Étienne
resté sans aucun héritier, Plus tard, il nomma Pietro Orseolo comme son successeur, mais il a vu clairement qu'après sa mort, son travail de
construction de son État chrétien
courait un grand risque, du fait des seigneurs rebelles et à cause de ce successeur inadéquat. Dans les dernières années de sa vie, il
subit beaucoup
de souffrances physiques et spirituelles. Les personnes de sa famille ayant fait une tentative d'assassinat contre lui. Dans son extrême désespoir, en 1038, il décide d'offrir son pays à la Sainte Vierge pendant le jour de l'Ascension. Il a décédé le lendemain, le 16 août 1038. Très peu de temps après sa mort, en 1083, il était déjà élevé parmi les saints. Sa canonisation se déroula sous le règne du roi Laszlo, qui fut membre de sa famille, et lui-même canonisé plus tard. Saint Étienne, fondateur de l'État, saint patron de la Hongrie, créateur de l'État millénaire et du christianisme hongrois, fut enterré dans la crypte royale de Székesfehérvár. Sa main droite, une relique miraculeusement laissée intacte, reste à ce jour le symbole de l'État et du christianisme hongrois. Le pape Jean-Paul II a dit d'Étienne lors de sa visite à Budapest en
1991
qu'il était et il reste dans la mémoire du peuple. Il était le sage qui écoutait les paroles de la sagesse divine et qui savait les mettre en pratique. La sagesse de ce roi, père de la nation. Saint Étienne était un chrétien qui croyait en la vérité révélée, qui donnait son cœur à Jésus,
au Dieu comme aux hommes,
et suivait ses enseignements sans hésitation.